Nous allons continuer avec le chapitre 13, qui est la conséquence qui suit directement le chapitre 12, c'est-à-dire la tactique du démon par rapport à notre vie chrétienne. Chose très glorieuse, le démon singe. L'homme par l'homme. Diriger ses biens. Et c'est ce qu'il nous est montré dans l'Apocalypse. Il va se servir de l'homme pour attaquer l'homme. Et c'est ce qui est appelé symboliquement par la bête de la mer et la bête de la terre. Ça, c'est l'alliance du démon. C'est dit explicitement que la bête de la terre a un chiffre d'homme et qu'elle est menée par le dragon. Donc on peut dire que ce sont les fausses alliances. Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez le déséquilibre qu'on a déjà vu chez le dragon. Le dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Eh bien, la bête de la mer, elle a 10 cornes et 7 têtes, ce qui revient au même. Parce qu'elle est une imitation, un prolongement du dragon. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Alors c'est curieux. L'inversion, vous voyez. Le démon est victorieux quant à son intelligence. Sous ses têtes qui emportent la victoire et qui emportent ses 7 diadèmes. Tandis que la bête de la mer, c'est sur ses cornes qu'il y a 10 diadèmes. On peut se demander, hein, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce que c'est pas laissé au hasard, ça. Pour essayer de trouver la stratégie des deux. Le démon agit par ruse, toujours, pour nous faire croire que c'est déjà fini. Qu'on est damné, qu'on est perdu. C'est toujours comme ça qu'il agit. Ça, c'est le procédé du démon. Il coupe l'herbe sous le pied. Pas la peine de continuer à agir. Tu es déjà toutes tes fautes. Tu es déjà damné. Procédé d'intimidation qui agit sur l'intelligence. Et puis, il agit aussi une sorte d'intimidation autre. Alors je crois que là il se sert de la bête de la mer, mais c'est sur les cornes c'est la puissance, j'ai tout pouvoir, je domine l'univers, tout est déjà jeté, tous les pions déjà fait. Alors sur les cornes, sur les 10 cornes, il y a 10 diadèmes. Donc, c'est, j'allais dire, un engagement total au point de vue de l'intimidation par le point de vue de la puissance. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Le démon respecte. Dieu créateur. Il ne nie pas l'existence du Dieu créateur. tandis que la bête de la mer, elle peut aller très loin dans l'eau du blasphème. Sur ces têtes des non-blasphématoires, le blasphème suprême, vous comprenez bien, c'est la négation de Dieu. Et je crois que tout le rôle de la bête de la mer, c'est de proclamer que Dieu n'existe pas. Et c'est pour ça que sur ces sept têtes, il y a des noms blasphématoires. Voyez, alors ce serait intéressant à bien voir ce rôle différent de l'intelligence. J'ai le dragon. Son intelligence est au service de la puissance. Sur ses têtes, cette diadème. Et l'intelligence de la bête de la mer est au service de blasphème. Corrompre le cœur. Rejetant l'existence de Dieu en blasphémant. Je crois qu'il y a deux rôles divers. Tous les deux nofines, néfastes. Tous les deux opposés à la sagesse de Dieu. Normalement, l'intelligence est au service de l'amour. L'intelligence est pour permettre qu'on aime plus, qu'on aime mieux. L'intelligence peut être tourné vers la puissance, où l'intelligence peut se replier sur elle-même et arriver à nier l'existence de Dieu. Je crois que c'est les deux choses qui nous sont montrées là, différentes. Et la bête que je vis, cette bête de la mer, était semblable à une panthère. Et ses pattes étaient comme d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Voyez ce que l'image de Dieu est devenue. L'image de Dieu a trois dimensions, selon la Genèse. Capacité d'aimer, l'intelligence, et puis la mémoire. Capacité de dominer, l'autorité, si vous voulez. Ici, la bête de la mer façonnée par le dragon. Donc l'homme transformé par le dragon va avoir trois aspects qui ne sont pas du tout en harmonie. La panthère, c'est la ruse. C'est farouche et féroce. Elle tue même quand elle n'a pas faim. C'est le propre de la panthère. Le lion, au moins, il est élégant. Il ne tue que quand il a faim. Ce qui est normal. Oui, quand il a faim, il tue. Et c'est la lionne qui tue. Pour le lion, c'est sûr. Il nous réserve la meilleure part au lion. La panthère, elle tue même quand elle n'a pas faim, par rage, un irascible terrible. L'ours, c'est la lourdeur. Les pattes étaient comme celles d'un ours. C'est jamais drôle de recevoir un coup de patte d'un ours. Et sa gueule était comme une gueule de lion. J'ai resté un peu de noblesse, oui. Sa gueule, gueule de lion. La déformation d'image de Dieu. La ruse a remplacé l'amour et la confiance. Le poids, la lourdeur massive remplace au point de vue l'intelligence. lui fut donné de faire la guérousse et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Tout le mystère de la prédestination. Mais voyez, c'est très délicat. Si vous prenez ça, vous tomberez très vite dans une espèce de fatalisme. Je vous fais grande attention, parce que prenez ça un peu matériellement. C'est là où il faut toujours ne pas interpréter un texte de l'écriture par l'ensemble. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Tous ceux qui habitent sur la terre, ce sont les hommes qui ne cherchent pas de finalité en dehors de la terre. Donc ils cherchent qu'à gagner de l'argent, par exemple. Serviteurs de maman. Ne cherchant qu'à gagner de l'argent, nécessairement, ils adoreront la bête. Et tous ceux qui habitent sur la terre, ceux qui ne cherchent que la gloire humaine, le pouvoir, ça vous donne l'envers, mais il s'agit de bien envers. Parce que c'est vrai, les passions politiques sont les passions les plus fortes en nous. Les passions politiques et les passions religieuses ou anti-religieuses sont les passions les plus violentes. Parce que je crois qu'il y a tout un atavisme dedans. Des passions qui sont très anciennes. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Le point de vue politique, le point de vue religieux. Le refoulement religieux, c'est connu. Le refoulement religieux est le refoulement le plus terrible qui soit. C'est celui qui détraque le plus, c'est celui qui engendre les angoisses. Refouler, vous savez que vous voyez, une éducation purement laïque conduit nécessairement à un déséquilibre de l'humanité et à augmenter l'angoisse. Qui peut arriver à une sorte de suicide général. Ça, c'est la grande crainte de certains qui regardent cela avec un petit peu d'attention à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, le refoulement de systématique de l'aspect religieux, c'est la chose la plus terrible qui soit. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Depuis la fondation du monde, notre nom est écrit dans le livre de vie, puisque nous croyons, puisque nous aimons la Vierge Marie. C'est le signe qu'on est prédestiné. Notre nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Alors, à ce moment-là, nous serions des habitants de la terre. On adorerait la bête. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué avec le glaive. Ici est la patience et la foi des saints. Très extraordinaire, ça. Bien, je crois que c'est ça, c'est très curieux. Ça confirme l'aspect de la dialectique. Quand vous ne voyez que l'aspect psychologique de l'homme, sans voir la finalité, vous tombez dans une nécessité absolue. On avait ce geste, on doit le répéter. C'est la tyrannie de la cause matérielle. Il n'y a rien de plus tyrannique que la cause matérielle, que l'efficacité. On est entraîné. Et alors on montre bien ça, vous voyez. On montre cette espèce de tyrannie, une espèce de logique de nécessité qui s'impose à nous. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué avec le glaive. Voilà, l'homme est réduit à ça. À cause du dragon, il perd sa liberté. Parce qu'il ne voit plus la finalité, il n'aime plus. Ce n'est qu'en aimant. Fondamentale. elle l'exerce devant elle. Elle fait que la terre et ceux qui habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Voyez l'insistance, hein. On veut nous montrer que c'est ça le grand secret. Et je crois que c'est le grand secret. Voyez cette alliance fausse. tandis que la bête de la terre, elle est encore plus incarnée. Décidé à la jeter, c'est une première incarnation. Une imitation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quoi. Les prophètes, par la parole, par les écrits, par les idéologies athées. Les idéologies athées viennent sûrement. l'Esprit de Dieu qui nous est donné, qui nous est communiqué, et il s'est communiqué avec cette branche, cette avenue. C'est pour saisir l'homme dans sa totalité, et faire de l'homme un fils bien-aimé de Dieu. Alors on comprend très bien que l'attaque du démon, supprimant le point de vue religieux, fait que l'homme se satisfait en lui-même. Vous voyez, quand le Saint-Père avait dit aux évêques français, quand il est venu pour la première fois à Paris, il a dit ça à huis clos. Mais évidemment, ça a été édité. Alors quand ça a été édité, je me suis précipité dessus, parce que j'avais grande envie de savoir ce que le Saint-Père avait dit aux évêques. Après avoir affirmé que la France venait de l'Église, qu'est-ce qu'il a bien pu dire aux évêques? Moi, j'aurais aimé que tous les évêques reprennent ce discours du pape. Eh bien, ça veut dire une chose très étonnante. L'Église, aujourd'hui, vit une méta-tentation. Vous voyez, ça, c'est signé du pape. Parce que c'est le point de vue philosophique qu'il y a comme une métaphysique et une méta-tentation. On l'avait jamais dit avant. J'avais vu quelqu'un qui parlait des méta-tentations. Donc la tentation radicale, celle qui exprime toutes les autres tentations. Et ça perdit ça. L'Église actuellement vit une méta-tentation. Une tentation qu'elle n'a encore jamais vécue. Et ça perd, ne dit pas comme des candidats, mais oui, ça a toujours été comme ça. Pas du tout. Ça n'a pas toujours été comme ça. On assiste à quelque chose de tout à fait original. Méta-tentation. Alors qu'est-ce que c'est que cette méta-tentation? Une tentation qui est plus terrible que la première, plus terrible que toutes les autres. Pas étonnant. Et la méta-tentation, c'est justement que l'homme prétend qu'il n'a plus besoin de sauveur. Dans son auto-satisfaction. Le pharisaïsme radical, c'est-à-dire j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin du Christ. Je me satisfais à moi-même. Et l'humanité se satisfait elle-même, cette espèce d'orgueil collectif de l'homme. Et alors si vous êtes attentif au symbolisme SIDS, vous voyez bien ça. L'homme se replie sur ces six dimensions, 6, 6, et il trouve parfait ces six dimensions, 6, le troisième. C'est une sorte de d'auto-réflexion sur sa propre satisfaction. Il est heureux. Il est heureux d'être un homme qui a tout acquis par lui-même, qui a tout découvert par lui-même. Cette espèce d'auto-justification de soi-même. Mais c'est juste l'inverse de la grandeur de l'homme qui adore et qui reconnaît qu'il ne peut rien sans le Christ. Vous voyez, ce texte de Saint-Luc qui nous montre que quand Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem, il n'y avait plus de place pour eux. C'est gros, hein. Alors, est-ce que ce n'est pas l'alpha et l'oméga actuellement par rapport à la rédemption? Les hommes ne veulent plus être rachetés par le Christ, être sauvés par le Christ. Ils n'acceptent que le chiffre de la bête. Et le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. Tout ce qui n'est pas le chiffre de l'homme, eh bien, est rejeté. Laïcisation absolue, radicale. Parce que l'attitude religieuse, c'est de s'ouvrir à un autre. plus grands que nous. Il y en a d'autres. Ça, c'est l'attitude religieuse. Tandis qu'au contraire, cette auto-satisfaction de soi-même, à l'égard de soi-même, et à l'égard de tout ce qui est humain, nous ferme complètement à Dieu. On devient complètement imperméable. Je crois qu'il faut être très attentif à ça, oui, surtout quand le Saint-Père dit des choses comme ça. C'est quand même très significatif. Et alors quand on lit l'Apocalypse, on se dit, je crois pas que le Saint-Père pensait au chiffre de la bête. Je crois pas. Mais c'est vraiment ça, le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Ceci est vrai. Je vois que les idéologies athées préparent la laïcisation la plus absolue qui soit. Et l'humanité se ferme sur elle-même, ne voulant que sa propre autonomie. Vous avez donc les deux qui se tiennent. La bête de la mer qui reste intelligente. Les sept têtes avec cette diadème. C'est-à-dire les sept têtes ont vu un succès énorme. Et le diadème montre le succès, la victoire. Tandis que la bête de la terre, il y a une grande, sans tête. Elle n'a pas besoin de tête puisqu'elle est au service de la bête de la mer. Donc elle accepte. Mais si on refuse l'esclavage de Dieu, on devient esclavage d'idéologie. Et on est esclavage d'idéologie. On est entièrement au service de ces idéologies. Et il n'y a plus que ça qui compte. Le reste ne compte plus rien. Alors ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans ces idéologies athées, ces grandes formes d'idéologie athée, il n'y a plus de philosophie de l'amour. C'est pour ça qu'on doit tellement être attentif aujourd'hui. Au plan philosophique, à réfléchir sur ce qu'est l'amour. Ça devient primordial, si vous voulez, pour nous. C'est notre oxygène. Tant il n'y en a plus. Et on va tous mourir, asphyxiés par les idéologies athées. Parce que les idéologies athées conduisent nécessairement au suicide. Les premiers disciples de Sartre se sont suicidés. Ces idéologies athées n'ont plus aucun regard sur ce qu'est l'amour. Les relations de l'homme avec l'homme peuvent être que des relations d'amis, si elles sont vraiment ce qu'elles doivent être. Je pose des questions tout de suite, puisque c'est ce chapitre 13 est particulièrement important pour nous. 13 et 12. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Parce que je ne porterai pas une délégation. Parce que c'est l'aspect négatif. Dépendant des trois conséquences, des trois concupiscences. On voyage toujours de 7 à 3. Parce que 3, c'est la Trinité. Et 7, c'est l'homme. Assumé par Dieu et transformé par Dieu selon l'Apocalypse, et pas seulement selon l'Apocalypse, mais au fond c'est pas une vérité révélée, c'est un symbolisme sur l'homme. L'homme est 7, 3 plus 4, 4 c'est un chiffre terrestre, mais l'homme n'est pas uniquement. C'est la dernière fois. Ah. Non, non, je crois pas. Ah, mais. Le 20. Le 20. Pas le 20.